Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse. Ce vendredi 9 janvier 2009, nous en profitons pour vous présenter les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Comme vous le savez, dans cette émission, nous analysons avec des confrères quelques grands faits qui ont dominé l'actualité de la semaine. Et au menu de cette émission, trois thèmes, à savoir la chute d'environ 20% du franc congolais face au dollar. En un mois, le taux d'échange est passé de près de 600 à 750, voire 680 francs congolais le dollar. Comme deuxième thème de cette émission, nous parlerons de la reprise des négociations entre le gouvernement et le CNDP à Nairobi. Les travaux ont repris mercredi dernier à Nairobi sous la présidence de Benjamin Mkapa, président honoraire de la Tanzanie. Enfin, nous aborderons dans notre troisième thème l'affaire des 12 députés nationaux accusés de corruption. Mais si nous avons encore un peu de temps, nous survolerons un sujet qui est aussi d'actualité cette semaine, c'est celui des nouveaux passeports congolais qui ne sont pas reconnus par certaines ambassades européennes. Trois confrères sont avec moi dans ces débats pour en discuter. Benoît Kambéré, rédacteur en chef du magazine Écho des Grands Lacs, journal paraissant à Kinshasa et distribué aussi à l'est du pays. Mike Mukebayi, directeur du journal Congo News, paraissant à Kinshasa. Et Linda Lukalu, journaliste à la chaîne de radio et télévision Nyota, émettant à Lubumbashi au Katanga. Avant d'aborder nos trois sujets de ce soir, jetons d'abord un coup d'œil dans les colonnes des différents journaux de la capitale pour voir comment ils ont commenté ces faits d'actualité. Le journal des journaux avec Pierrot et Lamégie.
La chute du franc congolais face au dollar occupe la une de beaucoup des journaux parus ce matin à Kinshasa. Se basant sur les mesures prises hier par le gouvernement, le palmarès estime que les mesures urgentes nécessitent l'intervention régulière de la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange afin de permettre le retour à la stabilité. La tempête des tropiques pense que la Banque centrale, qui affirme avoir déversé une masse importante de francs congolais en circulation, devait également mettre tous les garde-fous lors du lancement de cette masse monétaire pour éviter justement ces dérapages. Le quotidien craint cependant, de la part du gouvernement, le recours aux vieilles et mauvaises habitudes de la planche à billets qui risque d'aggraver la dépréciation du franc congolais et créer des incertitudes chez les opérateurs économiques. Un autre grand titre sur les manchettes des journaux chinois, c'est la reprise des négociations à Nairobi entre le gouvernement et le CNDP. Pour l'avenir, paru hier jeudi, le CNDP est sous pression à Nairobi. Pour ce quotidien, la situation des dissensions créées au sein de la rébellion n'est pas de nature à rassurer tout le monde. Le journal estime que les émissaires des Nations Unies feraient fausse route s'ils ne tenaient pas compte de cette nouvelle donne. La tempête des tropiques qui pensait aux populations du Kivu a estimé, dans sa livraison du même jeudi, qu'un accord rapide sur les cessez-le-feu est nécessaire afin de soulager les souffrances humaines qui continuent de frapper les zones des conflits. Cela, écrit le journal, devrait être le point capital à l'ouverture de ces pourparlers. Terminons cette revue de presse par l'affaire des 12 députés nationaux accusés de corruption. Le sujet a aussi figuré à la une des journaux parus cette semaine. Cette affaire pousse le quotidien Le Phare à dire qu'en RDC, la corruption s'institutionnalise. Pour Le Phare, il est permis de douter de la gestion même de l'État à tous les niveaux. La tempête des tropiques interpelle les présidents de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe devrait prêcher par l'exemple s'il frappe dur dans sa propre cour. Cela donnera de la frayeur à tous ceux qui seront tentés de tremper dans d'autres actes inciviques.
Merci Pierrot et Lamégie pour cette revue des presse. Mike Mukebayi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du journal Congo News, c'est un journal qui paraît à Kinshasa.
Oui.
Distribué aussi en province ou seulement à Kinshasa?
Non, jusque-là, nous sommes distribués uniquement à Kinshasa.
Voilà, un petit commentaire par rapport à la façon dont les journaux ont traité ces faits d'actualité.
Oui, si je dois donner mon avis, je suis mal placé pour le donner parce que, étant moi-même praticien, si je donne un avis, c'est très compliqué, mais je suis bien obligé parce que tu me le demandes. J'ai lu ces journaux, mais il y a quelque chose que je déplore souvent dans notre presse. C'est que tu remarqueras que dans notre presse, il n'y a pas souvent de papier de fond. On parle aujourd'hui de la dépréciation du franc congolais, la presse va aller tout droit vers l'épiphénomène, vers ce qui apparaît, mais il faut analyser, comprendre ce parti d'où, les mécanismes de la Banque centrale. Vous savez, ici, il existe presque pas des journaux qui critiquent le gouverneur de la Banque centrale. Il a réussi à avoir tous les journaux avec lui. Il y a quelques années, il y a des sommes importantes qui disparaissaient à la Banque centrale. Massangou réunissait des conférences de presse, et le lendemain, les journaux se contentaient de faire les compte-rendu des conférences de la conférence de presse de Massangou. Je crois qu'il y a un sérieux problème qui parle à la Banque centrale. On l'a évoqué lors de débats sur l'adoption du budget, les déficits exagérés chaque année à la Banque centrale. Je crois même qu'on aurait dû interpeller Massangou pour qu'il explique comment il arrive à ces déficits exagérés chaque année. Mais que voulez-vous, semble-t-il, il est protégé et personne ne peut l'interpeller.
On va y revenir au cours de notre débat. Benoît Kambéré,
oui,
vous venez de suivre avec moi la revue de presse que nous a présenté Pierrot et la Mégie.
On est assez fidèle de ce qui se passe, même si, comme l'a dit Mike tout à l'heure, certains confrères ont raté la cible en n'allant pas en profondeur de ce qui était prévisible en fin de compte. Parce que, avec la crise monétaire internationale, avec la crise économique, avec même la crise alimentaire qui a commencé depuis longtemps, gouverner c'est prévoir, dit-on. Mais chez nous, j'ai comme l'impression que ce n'est pas ça qui se fait. Et maintenant, avec cette folie, pour ainsi dire, parce que maintenant, les commerçants anticipent, chacun voudrait refaire une marge bénéficiaire, et pour éviter des surprises, il y en a qui ferment, comme certains confrères l'ont dit ce matin, et tout ça, c'est tout simplement pour anticiper à ce qui va arriver, et ce qui va arriver, c'est l'inconnu. Déjà, on parle de 80-85 sur la place de Kinshasa aujourd'hui. Donc, le pire arrive, quoi.
Merci, Benoît. Linda Lukalu, c'est vrai que vous êtes au Katanga. La plupart des journaux commentés, ce sont des journaux qui paraissent à Kinshasa. Mais est-ce que vous avez un petit commentaire à faire par rapport à cette revue de presse?
Oui, par rapport à cette revue de presse, je veux dire qu'à Lubumbashi aussi, il y a des journaux qui paraissent et la lecture, elle est presque la même. Je pense que je rejoins mes deux confrères qui sont intervenus avant moi. C'est vrai que c'est difficile de porter la réflexion sur le travail des autres, mais bon, j'y vais quand même. Je pense que c'est la presse, finalement, ne fait plus son travail, celui d'informer et d'éduquer. On ne fait pas dévancer les événements et dénoncer carrément ce qui se passe. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est cajoler le gouvernement, essayer de toujours de maintenir le pouvoir en place, alors que quand les choses ne marchent pas, il faut les dénoncer. Et peut-être que rentrer le contraire, il n'a pas pu dénoncer ce qui arrive, il n'a pas pu traiter les problèmes du fond et même dénoncer les mauvais comportements. C'est un peu ça.
Merci. Comme nous le disions dans le sommaire de cette émission, chute d'environ 20% du franc congolais face au dollar, dépréciation accélérée du franc congolais face aux devises étrangères, un dollar américain s'échange depuis hier soir contre 750 voire 780 francs congolais sur le marché noir. En trois mois seulement, la monnaie locale a perdu 20% de sa valeur. Signalons que le budget 2009 a proposé un taux de change de 585 francs congolais. Face à cette situation, le premier ministre Adolphe Mozito s'est entretenu hier jeudi avec le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale et le président de l'Association congolaise des banques pour analyser les causes de cette situation et trouver des solutions. Suivant ces résumés de Jocelyne Moussao, rendu par Axel Gonto.
C'est depuis le mois de septembre dernier que le franc congolais est de plus en plus instable. Selon la Banque centrale du Congo, la baisse des ressources provenant de l'exportation des matières premières due à la crise financière et économique internationale, la situation sécuritaire dans l'est du pays, l'augmentation de la demande des devises suite aux besoins pour les opérateurs économiques de reconstituer leurs stocks après les ventes de fin d'année, la rétention spéculative des devises couplée au phénomène d'anticipation et d'inquiétude essentiellement sur le marché de change parallèle russe de Kinshasa sont là les causes principales de cette situation. La Banque centrale du Congo annonce qu'elle va intervenir régulièrement sur le marché de change jusqu'à stabiliser la situation. Elle annonce également l'augmentation de son taux directeur de 28 à 48% l'an. La cellule a proposé également la mobilisation diversifiée et plus accrue des recettes fiscales, douanières, administratives, domaniales, judiciaires et des participations, le maintien de l'exécution des dépenses sur base caisse pour contenir le niveau de la masse monétaire et enfin le maintien d'un dialogue permanent avec les opérateurs du secteur financier pour gérer ensemble la situation actuelle du marché de change.
Mike Mukeba, directeur du journal Congo News, un journal parisien à Kinshasa. Votre réaction par rapport aux raisons avancées par la Banque centrale du Congo?
Les raisons avancées sont objectives, elles s'expliquent, mais il y en a d'autres que le gouverneur de la Banque centrale n'a pas évoquées.
Entre autres,
je crois que, madame, nous devons reconnaître que le fait que nous ne soyons pas un programme nous prive d'importantes quantités de devises que nous recevons. Il nous faut nous lever des options claires aujourd'hui. J'ai comme l'impression que nous tâtonnons, que nous ne savons pas entre les 5 chantiers et les programmes à rétablir avec les institutions de Bretton Woods, quelle est l'option que nous choisissons pour notre économie. Nous avons mis en route les 5 chantiers. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas démarré. Mais en même temps, nos partenaires traditionnels s'inquiètent, se disent, nous ne pouvons pas vous aider parce que vous cherchez à vous endetter davantage alors que nous sommes avec vous dans un processus pour parvenir à l'effacement de votre dette dans le cadre du programme perpétuel. Donc il y a un programme, il faut reprendre le programme, retourner un programme avec la Banque mondiale suppose qu'aujourd'hui on soit réaliste, qu'on se dise que les 5 chantiers n'ont pas démarré et qu'ils ne nous apporteront rien. Il s'agit des options. Nous devons avoir des options claires s'agissant de notre économie. Comprendre que c'est ceci notre voie et la suivre jusqu'au bout. J'ai vu dans les différents discours officiels une volonté réelle aujourd'hui de renouer avec les FMI et la Banque mondiale. Mais il faut y aller. Il faut y aller et il faut y aller jusqu'au bout. Il y a d'abord cet élément. Parce que à travers ce programme, nous recevons des appuis budgétaires annuellement. 60 millions, je crois, ou 80 millions de dollars. Aujourd'hui, nous ne recevons pas ces appuis. Donc, c'est une masse importante de dollars qui nous manque. Mais il y a aussi un autre élément. Quand la banque centrale parle de la spéculation, mais ça, c'est un phénomène terrible, là, Kinshasa. Je crois que c'est ce phénomène qui est même à la base de la surchauffe, en dehors des autres paramètres. Madame, je vous en prie, je peux aller vous montrer ça tout de suite. Il y a ici en ville une dame qui échange des dollars à des taux inimaginables. Quand le dollar est à 72, elle le prend à 80. Donc, si vous comprenez très bien ce phénomène, ça signifie qu'il y a 2 ans, qui arrive avec des masques franco-congolais. Et je suis sûr que c'est de l'argent gagné illicitement. Parce que si c'est gagné, de l'argent gagné licitement, on ne peut pas comme ça donner 500 000 dollars, dire, écoutez, achetez-moi des dollars. Vous dites, mettez-moi à tel taux pour avoir des dollars rapidement. Et dans cette transaction, vous perdez 50 000 dollars. Et madame, c'est connu ici à Kinshasa. Je crois qu'il y a un sérieux problème dans ce pays. Les services sont tout le temps en alerte lorsqu'il s'agit des questions les plus banales de la vie privée des gens. Mais voilà des gens qui font de la spéculation. Et visiblement, il y a derrière eux des gens qui mettent des masses importantes d'argent. Il n'y a personne pour contrôler. Il n'y a personne pour les interpeller. Ça, c'est grave.
Merci, Mike. Linda Lukalou, vous êtes journaliste à la chaîne de radio et télévision Nyota et mettant le Lubumbashi dans le Katanga. Que pouvez-vous dire sur la chute du franc congolais par rapport au dollar?
Et je veux dire d'abord qu'à Lubumbashi, le taux du dollar varie entre 70 et 72. Et ceux qui veulent spéculer vont jusqu'à 80-81. On enregistre une tendance d'hausse de prix de denrées alimentaires. Et je pense que, je peux dire que la panique plane hein, dans le chef de la population des choix, qui est déjà secouée par la crise financière mondiale et qui se fait déjà sentir. On le voit dans la fermeture de certaines entreprises minières. Par rapport à la hausse du prix du dollar, je pense que la banque centrale doit faire maintenant des efforts, essayer finalement de stabiliser notre monnaie et finalement de la rendre fiable. Ce n'est pas correct que l'on voit des sommes d'argent dans les mains des particuliers, des gens qui cherchent le dollar et qui ont des briques de francs et qui changent le dollar à n'importe quel taux et qui changent le dollar comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Il faudrait que la banque mette des structures afin finalement de sécuriser notre monnaie. Ce n'est vraiment pas correct de voir des grosses sommes d'argent dans les mains des particuliers. Et que fait la banque? Et quel est le rôle de la banque? Quel est le travail de la banque en tout ça? C'est bien beau de nous dire c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela, c'est à cause de la crise financière et que finalement le taux du dollar est en train de hausser et tout. Mais qu'est-ce que la banque fait pour notre monnaie? Qu'est-ce que la banque fait pour le franc congolais? Qu'est-ce que la banque fait pour sécuriser le franc congolais? En tout cas, j'ai l'impression qu'on attend toujours que les conséquences arrivent et que les gens des misères pour finalement mettre des structures de base. Ce n'est pas intéressant. Il faudrait dévancer les événements. Il faudrait mettre sur pied des bases pour sécuriser notre monde. C'est un peu ça.
Benoît Kambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Écho des Grands Lacs. C'est un journal qui paraît à Kinshasa, mais aussi distribué à l'est du pays. Est-ce qu'on peut dire que cette chute du franc congolais est due au manque de vision de la part de nos dirigeants qui n'ont pas pris des précautions à temps alors qu'ils étaient au courant de la crise économique mondiale?
Absolument, absolument. On ne peut dire que ça. Parce que je vais prendre des exemples très simples. Vous savez, dans notre métier, on voyage. Je suis arrivé dans plusieurs aéroports de l'Afrique, pour ne prendre que le cas de l'Afrique, même des pays frontaliers. Dans aucun aéroport, on a accepté, j'arrive à Johannesburg, j'arrive à Addis Abeba, aucun aéroport, dans aucune boutique de l'aéroport, on accepte la devise étrangère. J'ai beau avoir des euros, j'ai beau avoir des dollars, mais on n'accepte jamais. J'ai été à Kigali, j'ai été à Addis Abeba, j'ai été à Johannesburg, tout le monde, même ici au Congo en face. Vous avez beau avoir des dollars, première chose, on vous envoie à la banque pour changer en monnaie locale. On n'accepte pas d'acheter quelque chose dans une monnaie locale. Déjà, ça, c'est une mesure qui ne doit pas attendre la crise mondiale, qui ne doit pas attendre la crise financière, qui ne doit pas attendre la crise. Et au moins, la banque a des devises. Mais tu arrives à l'aéroport de Njili, la première des choses, quand les gens arrivent de l'intérieur, par exemple, ils ont des francs congolais, ils peuvent acheter les dollars américains à l'aéroport de Njili pour faire des transactions dans la ville de Kinshasa. Le loyer ici, il faut le payer en dollars. Vous voyez des articles dont les prix sont fixés en dollars. Toutes les boutiques, toutes les alimentations de Kinshasa, les transactions se font en dollars. On n'a jamais vu ça nulle part au monde. C'est des exemples. Et ça, on ne peut pas. Malheureusement, les politiques congolais qui n'ont pas de vision attendent toujours subir les choses. Quand la crise arrive, bon voilà, on cherche des solutions palliatives à gauche et à droite, et je suis sûr que le pire nous attend.
Mike Mokebe, je reviens à vous. Est-ce que la chute du franc congolais ne va-t-elle pas compliquer l'amélioration des conditions sociales attendues du nouveau budget? Parce que déjà, le nouveau budget a proposé un taux d'échange de 585 francs congolais.
Ouais, si les taux restent là, il va y avoir un sérieux problème. Mais il faut reconnaître que le débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale a abouti à ceci, autour du budget. C'est que finalement, on s'est dit que les paramètres macroéconomiques retenus, les agrégats macroéconomiques retenus, restent des objectifs. Les taux de change, les taux de croissance. Donc ça signifie qu'il appartient au gouvernement de se battre à partir d'aujourd'hui pour ramener le taux à 580 comme défini dans le budget 2009. S'il n'arrive pas à le ramener, inévitablement, il va créer une sérieuse désarticulation. Mais je crois, moi, que c'est facile, c'est pas facile peut-être, mais que c'est possible. Du fait que dans les facteurs qui aggravent cette crise, dans les facteurs qui ont entraîné ces dépossessions graves et terribles du franc congolais, il y a une grande part de spéculation.
Alors, comme la spéculation, en fait, c'est du superficiel, je crois que si on travaille de ce côté-là, peut-être qu'on ne reviendra pas à 580, on pourrait venir à 6. Mais ce n'est pas très, très facile si on doit regarder les habitudes ici. Généralement, quand on monte jusqu'à un taux, il est difficile de revenir au taux initial. On a vécu ça rarement ici. Je me dis, les gouvernements qui a dit, et avec d'ailleurs l'accord de l'Assemblée nationale, que ces agrégats ces agrégats macroéconomiques sont des objectifs. Alors je me dis, c'est le moment aujourd'hui pour le gouvernement de mener ce combat. Mais les habitudes ici font qu'il est rarement, c'est rarement arrivé, qu'on monte et qu'on revienne à un taux initial. Si le gouvernement n'y arrive pas, ça va créer une terrible désarticulation. J'ai craint fort que le gouvernement se retrouve avec des réalités qu'il n'avait pas prévues au départ.
Benoît Kambéré, mais est-ce que cette chute n'est pas due aussi à la planche à billets?
Écoutez, les politiques sont des fentes, mais moi, je viens du marché. Je suis dans la ville de Kinshasa. Il suffit de voir les cambistes sur la place Hugo Tanzambi, le château. Il n'y a que des nouveaux billets. Il n'y a que des briques, des nouveaux billets. De 500, de 200, de 50. Il n'y a que des nouveaux billets. Dites-moi, les nouveaux billets, ils viennent d'où?
Il y a eu beaucoup de faux billets en circulation. Ouais,
entre autres, c'est dû tout simplement à cela. Vous n'allez pas me dire que les briques de billets qu'on voit à Le Château, à Matongé, à Bandal, viennent des mamans qui vendent au marché. Ça ne peut venir que de quelque part. Et ce quelque part, c'est l'Institut des Missions.
Linda Lukalu, je sais que vous n'êtes pas économiste, mais que faire selon vous pour stabiliser notre monnaie par rapport aux devises?
Ah, ce qu'il faut faire, je pense, d'emblée, exactement, tu l'as dit, je ne suis pas économiste, mais si je dois voir ce qui se passe dans les autres pays, c'est d'abord valoriser notre monnaie et comment en fait c'est vrai que le dollar est finalement devenu notre repère, mais interdire quelque part son utilisation, parce que dans tout aujourd'hui à Lubumbashi, avec 5 dollars tu peux acheter de la farine au marché, avec un billet de 5 dollars même dans un marché, alors que on devrait prendre ces dollars pour moi, le mettre à la disposition des grandes entreprises ou des grands entrepreneurs, des hommes d'affaires. Et à ce niveau-là, au moins, le dollar peut passer. Et refuser le dollar au bas niveau, ça veut dire voir le dollar au marché, c'est finalement devenu notre monnaie. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on voit même dans des magasins un prix, le prix même d'un Big Brother affiché en dollars. Ça, là, on ne donne pas de la valeur à notre monnaie, il faut la valoriser en refusant le dollar dans les petits achats. Les petits achats et même peut-être dans les marchés, tout ce qu'on fait.
Si je vous comprends bien, donc interdire la circulation du dollar auprès des particuliers au profit des banques.
Oui, au profit des banques, par exemple. Là, je pense qu'on va valoriser notre monnaie.
Merci, Linda Lukalu. Sans transition, passons à notre second thème, qui est celui de la reprise des négociations entre le gouvernement et le CNDP à Nairobi. Les travaux ont repris mercredi dernier à Nairobi sous la présidence de Benjamin Mkapa, président honoraire de la Tanzanie. Il doit être rejoint par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans les Grands Lacs, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo. Les délégués du gouvernement et ceux du CNDP sont bien présents dans la capitale kényane. Cependant, pour le CNDP, le groupe dissident avec Josko Taganda en tête, il dit avoir déchu Laurent Kunda, ne reconnaît pas la délégation CNDP présente à Nairobi. On écoute Kamanzi, porte-parole de Josko Taganda.
La délégation qui est là-bas n'est pas reconnue par notre mouvement. Donc il fallait revoir les structures et comment elles seraient redynamisées et savoir réellement sur quoi on peut tabler pour avancer avec les négociations. Nous ne disons pas que les négociations ne sont pas fondées, non, mais il faut revoir ce qu'il faut vraiment négocier. Parce que ce qui est diffusé par-ci, par-là, n'est pas nécessairement bien accepté par la nouvelle organisation ou alors le nouveau leadership.
Réaction CNDP, elle, Laurent Kounda, pour son porte-parole militaire Laurent Kounda et reste le président de ce mouvement. Selon Séraphin Mirindi, il n'appartient pas à un individu de décider sur une matière qui est de la compétence du Congrès. Séraphin Mirindi répondait aux questions de Jean-Claude Ntumba dans l'émission Dialogue entre Congolais.
Selon ce que Kamanzi a dit et le général Bosco Ntaganda, il était question de limoger le président. Loin de là, c'est là parce que le CNDP a des structures. Il y a le Congrès qui a l'amabilité de siéger et de décider sous le sort du mouvement ou des individus du mouvement, ce qui n'a pas été. Le High Command est là pour évaluer justement une situation qui ne marche pas dans le mouvement, ce qui n'a pas été fait. Et donc, les militaires font leur travail et ce n'est pas aux militaires de pouvoir décider sur le sort politique d'une si grande organisation que le CNDP. Et donc, par là, nous disons, oui. Lui, il est chef d'état-major général et il l'est même, et nous le considérons pour ses faits, mais il n'a pas le droit de pouvoir décider sur le sort de tout un mouvement politico-militaire.
Aux dernières nouvelles, signalons que Olusegun Obasanjo est chez Laurent Kounda, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, est arrivé ce vendredi matin à Djomba, à près de 70 km de Goma, dans le territoire de Rutshuru. Selon le lieutenant-colonel Séraphin Mirindi, porte-parole militaire du CNDP, l'entretien tournerait autour de la participation du Sénat et de l'Assemblée nationale aux négociations de Nairobi, tel que sollicité par le CNDP. Il est aussi question de la localité de Kibati, située à plus de 10 km au nord de Goma, qui était abandonnée par le CNDP, mais actuellement, selon le CNDP, est occupée par les FRDC. Notons que le CNDP exige toujours les retraits des militaires FRDC de cette zone. Alors, Linda Lukalou, je rappelle que vous êtes journaliste à la chaîne de radio et télévision Nyota, et mettons à Lubumbashi dans le Katanga. Que peut-on attendre alors de ce nouveau round des négociations?
En tant que Congolaise, je reste d'abord optimiste. Hein. La République démocratique du Congo retrouvera sa paix. Je pense qu'il est difficile que ces négociations aient un cours normal. Je m'explique. La République démocratique du Congo est unie. Elle a un objectif bien précis en participant à ces assises. C'est celui de mettre fin à cette agression et finalement à cette guerre. Alors que le CNDP est censé être sur la même table que la RDC, connaît des problèmes. Et même presque une scission, une façon de dire que le CNDP n'a pas encore résolu ses problèmes à lui. Et donc, il est vraiment difficile que le CNDP et la République démocratique du Congo partent sur une même base. Et par conséquent, les négociations risquent de tirer en longueur.
Maître Mokibaï, directeur du journal Congo News, les malaises actuels au sein du CNDP peut-il avoir un impact sur les déroulements de ces négociations?
Ah oui, inévitablement, tout dépend de ce que Bosco Ntaganda représente. Je crois qu'il représente quelque chose, parce que Laurent Kounda s'était déjà retiré de Kichanga, il avait installé pratiquement son quartier général, il avait pratiquement installé son quartier général à Djomba, et voilà que c'est Bosco Ntaganda qui répond à l'ancien Kijé, qui est Kichanga. Il faudra bien suivre, c'est des éléments que je n'ai pas en ce moment, il faudra suivre la position des hommes des troupes. Le gros des troupes est avec Laurent Kounda ou avec Bosco Ntaganda. Cette querelle entre, si on peut appeler aujourd'hui de deux façons, le deux ailes du CNDP ne peut que nuire aux négociations. Ça signifie que si Kamanzi conteste la délégation qui est présente à Nairobi, ça signifie à ce moment-là que l'aile de Bosco Ntaganda ne va pas reconnaître ce qui aura été décidé. Et encore qu'au départ, on n'avance pas beaucoup dans ces négociations. Je me pose fondamentalement des questions sur la volonté du CNDP d'aller vers la paix, vers une solution, négocier. Quand j'entends des conditions du genre présence de l'Assemblée nationale, du délégation, je dis mais ce n'est pas vrai, c'est des manœuvres dilatoires, je me demande, je me pose la question. Et je me rappelle la réponse du CNDP à la proposition du gouverneur de la province du Nord Kivu de négocier avec le CNDP directement. Quand le CNDP réclamait des négociations directes, il avait dit non, non. il est hors de question. Nous savons que celui qui détient l'impérium, c'est Joseph Kabila. Nous, nous négocierons avec Joseph Kabila. Mais je crois que là, à Nairobi, le gouvernement a délégué le représentant, et ils sont bien présents, et je crois que la tâche de cette négociation, ça, la compétence est au niveau du gouvernement, de demander qu'il y ait une délégation de l'Assemblée nationale et une délégation du Sénat. Je ne sais pas ce que ça apporte de plus. Je m'inquiète sur la volonté du CNDP d'aller réellement vers la paix. Quand je considère les conditions que le CNDP avance, aujourd'hui il y a une dissidence au sein du CNDP, cela ne va pas aider la résolution de la crise. Tant d'inquiétudes. Mais je crois que la question est bien simple. Ce qui ne lève une option, ce qu'il faudra, c'est d'aller jusqu'au bout de cette option.
Merci Mike. Benoît Kambéria, qui peut prendre au sérieux ce malaise au sein du CNDP?
Moi, je ne prends pas ça au sérieux, très sincèrement.
Et pourquoi?
Tout simplement, je parle des faits. Derrière Bosco Ntaganda, sur qui d'ailleurs un mandat d'arrêt international pèse, il suffit qu'il quitte Masisi, il est attrapé comme un lapin, comme l'ont été ses autres collègues, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Bosco Ntaganda est connu. Il a rejoint le CNDP il y a 2 ans. Mais dans l'Ituri, tout le monde l'appelle Terminator. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et s'il quitte Masisi, il est attrapé comme un lapin, comme les Germains Katanga l'ont été ici, comme d'ailleurs, si Thomas Lubanga est en train de payer aujourd'hui à la haie, c'est par les méfaits commis notamment par Ntaganda. Il suffit de bien regarder le dossier qui est à la CPI. Ça, c'est un. Qui est derrière lui? Désiré Kamanzi. C'est un nouveau. Un inconnu. Il vient d'où? Ce serait bien de savoir qui sont derrière ces gens. Est-ce que la direction politique du CNDP est avec eux? Est-ce que c'est le haut commandement seulement? Et encore, il semble que tout ça a été dit après une réunion du haut commandement, dont on n'a pas parlé. Maintenant, Désiré Kamanzi semble être le porte-parole de Bosco Ntaganda. Les autres qui sont à Nairobi pour négocier. Et curieusement, ce que j'ai lu dans une dépêche de l'AFP, ils reprennent pratiquement les mêmes revendications. Ils veulent qu'eux se mettent avec les FRDC pour combattre les FPLR. À quel jeu on joue? C'est tout simplement une manœuvre de dilatoire. Et là, je rejoins Mike pour dire, attention à Kinshasa, on commence un peu à trop jubiler.
Mais Bosco Ntaganda demande au gouvernement congolais de travailler en collaboration avec les FARDC pour traquer les FDLR.
C'est ce que le CNDP a toujours demandé. Ce n'est pas nouveau. Si on est parti du brassage au mixage, c'était juste pour ça. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas lui seul qui va décider de quelque chose, d'un mouvement politico-militaire. Lui, il est commandant en chef de l'armée. À moins que ce soit un putsch, et que ce soit un véritable putsch. Parce que l'autre est à Djomba. Je constate qu'aujourd'hui, Oluseguno Obasanjo est plutôt à Djomba que dans le Masisi. On peut se poser des questions. Il faudrait que les Congolais fassent très attention. Ça peut être, encore une fois, une manœuvre dilatoire. Il y a eu un bruit qui a couru pendant un moment. J'ai entendu des hommes politiques jubilés et même certains titres à Kinshasa qui avaient annoncé la mort de Laurent Kunda. Attention, ne tombons pas dans les pièges.
Attention aussi, on risque d'avoir des revendications dispersées. Le gouvernement sera devant un problème.
Le gouvernement, s'il a décidé de négocier, qu'il aille au bout maintenant. Parce que on s'attendait, avec toutes ces tergiversations, c'est vrai, il y avait des ventes en guerre qui disaient il n'est pas question de négocier, il n'est pas question de négocier, à trop attendre. Voilà les résultats. On aurait pu saisir la balle au bon et aller directement enlever tous les prétextes que le CNDP a toujours brandi. Mais là, on complique la situation.
Linda Lukalu, revenons aux négociations de Nairobi, pour mettre fin à cette guerre à l'Est, est-ce que le gouvernement ne se trouve pas finalement dans l'obligation d'accepter les revendications du CNDP? Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de réunions, mais sans aucun résultat positif.
Pardon.
Je disais, pour mettre fin à cette guerre à l'Est, est-ce que le gouvernement ne se trouve pas finalement dans l'obligation d'accepter les revendications du CNDP? Parce qu'on a eu beaucoup de réunions, mais sans aucun résultat positif.
Moi je me dis que si le gouvernement accepte finalement tous ces matraquages du CNDP, c'est tomber dans son piège. Je pense même que tous ces problèmes enregistrés au sein du CNDP est une façon peut-être de juste gagner du temps pour le CNDP ou d'encore d'élastifier les choses pour que les choses n'avancent pas. Je pense que le gouvernement s'est engagé à négocier et qu'il aille jusqu'au bout, négocier de trouver des solutions qui seront appréciées par le peuple congolais. Parce que le CNDP, finalement, on a l'impression que le CNDP est en train de jouer un petit jeu pour essayer de distraire l'opinion et pour que finalement qu'il ait du temps et qu'il gagne du temps pour continuer à opérer dans le Nord Kivu et dans l'est du pays.
Maître Mukebayi, au cas où cette troisième rencontre de Nairobi n'aboutit pas à un résultat positif, que peut-il faire?
Madame, je peux te dire que c'est clair, il n'y aura pas de résultat.
C'est clair. Hein?
Je ne suis pas pessimiste, madame. Je vois les prémices. Je vois, je suis un analyste. J'avais déjà à l'époque prédit que le premier round de Nairobi n'allait rien donner. Je ne crois pas beaucoup. J'ai toujours pensé, madame, qu'il y a certaines questions qui sont fondamentales et qui ne sont pas discutées. Et les uns et les autres font de l'hypocrisie. Madame, je ne suis pas pour l'impunité. Pas du tout. Mais madame, tant qu'on n'a pas résolu la question de sécurité personnelle des hommes qui sont impliqués dans ces négociations, rien n'en sortira. Jean Bosco Tangada, il pèse sur lui un arrêt du tribunal international. Vous pouvez imaginer que Jean Bosco Tangada est favorable à la paix en se disant que si j'ai conclu la paix, je signe mon arrêt de mort, je suis le même jour pris et transféré à la CPI. Derrière Laurent Kunda, il y a combien de généraux qui sont ici condamnés à mort dans l'affaire Laurent Désiré Kabila? Madame, il nous faut comprendre que si nous voulons privilégier la paix, à un moment donné, sans que je sois là pour encourager l'impunité, nous devons fermer les yeux sur certaines choses. De toute façon, en politique, quand vous voulez y aller, il y a certains concessions à faire. Si nous ne comprenons pas, les centrafricains l'ont compris. Après avoir livré Jean-Pierre Bemba à la CPI, ils se sont arrêtés là. Les auteurs directs de cette accusation présentée devant la CPI sont rentrés aujourd'hui en Centrafrique. Bozizé a compris qu'on en l'a fait. S'il poursuit Ange-Félix Patassé, s'il poursuit Abdoulaye Mouski, il n'arrivera pas à cette paix. Cette question est fondamentale. Il faut que les gens parlent de cette question. On n'en parle jamais. Et quand vous en parlez, les ONG de la société civile sont les plus promptes à dire non. Nous disons non, mais nos compatriotes continuent à souffrir, à mourir tous les jours. C'est un choix politique à faire. Nous nous disons qu'au nom de la paix, nous levons cette option. Ou nous disons, ces gens doivent être déférés devant notre pays, la justice internationale, et nous acceptons ces conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous acceptons que cette crise se poursuive. Rien à faire. Si vous ne levez pas cette option, c'est comme si vous demandez à Jean Bosco Tangada de se tirer une balle dans le pied de se faire acquérir. C'est une question de rôle politique.
Dernier terme de cette émission, affaire des 12 députés nationaux accusés de corruption. Il y a plus de deux semaines passées, sur démon du bureau de l'Assemblée nationale, 12 députés nationaux, membres du sous-groupe des recettes DGI, c'est-à-dire de la Direction générale des impôts, pour les budgets 2009, ainsi qu'un député non membre de ce sous-groupe ont été entendus par le comité des sages de cette chambre du Parlement au sujet de l'argent perçu auprès de l'ADG de la DGI. Après consultation des parties concernées, le comité des sages a établi que l'argent a été distribué à des fins non encore élucidées au niveau du comité des sages. La chambre basse du Parlement prévoyait pour le mardi dernier l'adoption de la résolution de la création d'une commission spéciale devant statuer sur l'opportunité de la levée de l'immunité de ces 12 députés nationaux. Mais aux dernières nouvelles, elle vient de renvoyer l'adoption de cette résolution à une date ultérieure. Une mesure qui fait suite à la motion de François Bokona, député issu de la majorité présidentielle, qui a estimé qu'il était prématuré de prendre cette décision, surtout qu'il n'existe pour l'instant aucune preuve matérielle qui témoigne que ces parlementaires ont été corrompu par la DGI en vue de minorer les recettes additionnelles de la régie financière au budget 2009. François Bokona est au micro de Marie-Chantal Lumba.
C'est pas le rejet de la mise sur pied de la commission. J'estimais que c'était prématuré, étant donné que dans la résolution du 30 décembre, qui avait été transmise déjà au procureur général de la République, l'Assemblée nationale, pour des raisons d'enquête, avait déjà déféré les 12 députés devant le procureur général de la République. Nous avons estimé que c'était déjà beaucoup. Les procureurs généraux de la République pouvaient entendre les députés, c'était d'immunité, sauf qu'ils ne peuvent pas les déférer devant le juge et ils ne peuvent pas non plus les arrêter, parce que pour cela, il faudrait une deuxième demande d'autorisation maintenant de lever d'immunité. Alors, aussi longtemps que le procureur n'a pas encore posé, à mon sens, un quelconque acte d'audition, alors que la morse même de la première étape n'avait pas encore commencé.
Benoît Kambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Écho des Grands Lacs. Le député François Bokona pense que la procédure n'a pas été respectée. Qu'en pensez-vous?
Ben, je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison parce qu'on a l'impression qu'on veut trop politiser cette affaire. Certes, on voudrait emboucher les trompettes et dire que la lutte contre l'impunité a commencé. Non, moi je crois que une lutte contre l'impunité, c'est une lutte qui doit être pensée, c'est une lutte qui doit être méthodique, c'est une lutte qui doit avoir du répondant, pas s'arrêter sur 12 membres d'une sous-commission, utile des députés. Hein. Moi je voudrais que leur culpabilité soit d'abord établie, parce que jusque-là, j'ai lu dans la presse, malheureusement, beaucoup de confrères ont dit déjà corruption, ce sont des présumés coupables, donc présumés innocents, on est d'abord innocent, l'exception c'est d'être coupable, alors il faudrait qu'on soit très prudent, qu'on voit d'abord où lever les chapeaux, voir où sont les problèmes et s'il y a culpabilité, alors passer à l'autre étape qui est d'enlever l'immunité des parlementaires.
Mike Mukebai, directeur du journal Congo News, comment comprendre ce geste de l'Assemblée nationale par rapport à la lutte contre la corruption dans la gestion des affaires publiques?
Oui, je voulais d'abord dire quelque chose et je pense que c'est plutôt technique. Je ne pense pas que la procédure a été violée. On peut prendre l'une comme l'autre voie. La voie que l'Assemblée nationale a proposée, c'est que le procureur général commence par auditionner. Donc, il ouvre une information judiciaire, une instruction, il auditionne, et s'il trouve qu'il y a des présomptions sérieuses, en ce moment-là, avant maintenant de déférer les concernés, les deux députés devant le juge, il va demander la levée d'immunité. Alors, lui, le procureur, a préféré aller directement demander la levée d'immunité. Mais là où ça cloche un peu, c'est quand il aurait dû d'abord commencer déjà par déférer le DG
de la DGI,
qui lui ne bénéficie d'aucune immunité. Je ne vois pas pourquoi il est si pressé d'obtenir la levée d'immunité des députés, alors que le DG de la DGI, qui ne bénéficie d'aucune immunité, n'est pas encore déféré devant un juge. Du côté de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose à encourager, c'est formidable. L'Assemblée n'a pas dit que ses députés ont été corrompus, mais l'Assemblée a fait son travail, elle a reçu une information. C'est parti de la commission à Cossine. Il y a un député qui a dit il nous a été remis de l'argent pour essayer de minorer la recette de la DGI. Les comités de stage ont auditionné des députés et il y a des députés qui ont reconnu avoir reçu de l'argent du président du sous-groupe, ce qui était déjà suspect. Et à partir de ce moment, pour la commission, donc, il y avait eu cette tentative de minorer et surtout que les agents de l'Assemblée nationale, qui étaient affectés, les agents affectés à la pointe à cette commission, ont reconnu qu'il y a eu deux documents, un document avec 46 milliards dans le fait de la DGI, et un autre avec 11 milliards. Il faut reconnaître que l'Assemblée nationale a fait un très grand travail, il faut reconnaître à Kamere tous les mérites du travail qu'il fait, il faut lui reconnaître cette capacité à se mettre au-dessus de la mêlée pour mener les débats dans l'intérêt de la nation. Ça, c'est formidable pour ces garçons.
Merci Mike. Linda Lukalou, vous êtes journaliste à la chaîne de Radio et télévision Nyota émettant à Lubumbashi dans le Katanga. Est-ce que ce geste de l'Assemblée nationale pourra servir de leçon à d'autres parlementaires et gestionnaires de la chose publique?
Exactement, si les faits sont établis et qu'on établit que les députés ont été vraiment corrompus, je pense que la lutte contre la corruption devra commencer un peu plus haut, que le peuple congolais ne pense pas qu'il y a des gens, des intouchables dans notre pays, alors que notre pays est réputé parmi les pays les plus corrompus du monde. Dire aujourd'hui, si on devrait punir ces députés, ce serait vraiment une chose à encourager, une leçon à donner au peuple congolais et même à ceux qui sont en train de gouverner, aux politiques. Ça sera vraiment un truc à encourager.
Benoît Kambere, terminons avec vous une dernière question parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Est-ce que la Constitution prévoit que des députés perdent leur mandat suite à la corruption?
La Constitution prévoit qu'on peut lever l'immunité d'un député qui a compromis quelque part. Ça, c'est clair. Hein. Mais on ne peut pas, dans ces conditions, déjà lever l'immunité d'un député, tout simplement sur simple présomption.
C'est la fin de cette émission. Merci à notre consoeur Linda Lukalu, journaliste à la chaîne de radio et télévision Nyota, émettant à Lubumbashi dans le Katanga. Merci aussi à nos deux confrères, Mike Mukebayi, directeur du journal Congo News, un journal paraissant à Kinshasa, et à Benoît Kambere, directeur, rédacteur en chef du magazine Écho des Grands Lacs, un journal paraissant à Kinshasa, et distribué aussi à l'est du pays. Merci à Pierrot et la musique éteinte à la réalisation, et à Paul Badianerma qui est à la mise en œuvre. Au nom de toute l'équipe de Dialogue Autre Congolais, Jean-Claude Tumbakamanga, Guy Maté, Willy Akunda et moi-même Kelly Nkouté, nous vous souhaitons un bon week-end en compagnie de Radio Okapi.